Aristote, Politique, livre 3. De l'État et du citoyen, théorie des gouvernements et de la souveraineté, de la royauté. Chapitre 1er. Sommaire. De l'État et du citoyen. Conditions nécessaires du citoyen. Le domicile ne suffit pas. Le caractère distinctif du citoyen, c'est la participation aux fonctions de juge et de magistrat. Cette définition générale varie suivant les gouvernements et s'applique surtout aux citoyens de la démocratie. Insuffisance des définitions ordinaires. De l'identité ou du changement de l'État dans ses rapports avec les citoyens. L'identité du sol ne constitue pas l'identité de l'État. L'État varie avec la Constitution elle-même. Paragraphe 1. Quand on étudie la nature et l'espèce particulière des gouvernements divers, la première des questions, c'est de savoir ce qu'on entend par l'État. Dans le langage vulgaire, ce mot est fort équivoque. Et tel acte, pour les uns, émane de l'État, qui, pour les autres, n'est que l'acte d'une minorité oligarchique ou d'un tyran. Pourtant, l'homme politique et le législateur ont uniquement l'État en vue dans tous leurs travaux. Et le gouvernement n'est qu'une certaine organisation imposée à tous les membres de l'État. Paragraphe 2. Mais l'État n'étant, comme tout autre système complet et formé de parties nombreuses, qu'une agrégation d'éléments, il faut évidemment se demander tout d'abord ce que c'est que le citoyen, puisque les citoyens en certain nombre sont les éléments mêmes de l'État. Ainsi, recherchons en premier lieu à qui appartient le nom de citoyen et ce qu'il veut dire. Question souvent controversée et sur laquelle les avis sont loin d'être unanimes, tel étant citoyen pour la démocratie, qui cesse souvent de l'être pour un État oligarchique. Paragraphe 3. Nous écarterons de la discussion les citoyens qui ne le sont qu'en vertu d'un titre accidentel, comme ceux qu'on fait par un décret. On n'est pas citoyen par le seul fait du domicile, car le domicile appartient encore aux étrangers domiciliés et aux esclaves. On ne l'est pas non plus par le seul droit d'ester en justice comme demandeur et comme défendeur, car ce droit peut être conféré par un simple traité de commerce. Le domicile et l'action juridique peuvent donc appartenir à des gens qui ne sont pas citoyens. Tout au plus, dans quelques États, limite-t-on la jouissance pour les domiciliés. On leur impose, par exemple, de se choisir une caution. Et c'est une restriction aux droits qu'on leur accorde. Paragraphe 4. Les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de l'inscription civique et les vieillards qui en ont été rayés sont dans une position presque analogue. Les uns et les autres sont bien certainement citoyens, mais on ne peut leur donner ce titre d'une manière absolue, et l'on doit ajouter pour cela qu'ils sont des citoyens incomplets, pour ceci qu'ils sont des citoyens émérites. Qu'on adopte, si l'on veut, toute autre expression, les mots importent peu. On comprend sans peine quelle est ma pensée. Ce que je cherche, c'est l'idée absolue du citoyen, dégagée de toutes les imperfections que nous venons de signaler. À l'égard des citoyens notés d'infamie et des exilés, même difficulté et même solution. Le trait éminemment distinctif du vrai citoyen, c'est la jouissance des fonctions de juge et de magistrat. D'ailleurs, les magistratures peuvent être tantôt temporaires, de façon à n'être jamais remplie deux fois par le même individu, ou bien limitée, suivant toute autre combinaison, tantôt générale et sans limite, comme celle de juges et de membres de l'Assemblée publique. Paragraphe 5. On ira peut-être que ce soit là de véritables magistratures et qu'elles confèrent quelques pouvoirs aux individus qui en jouissent. Mais il nous paraîtrait assez plaisant de n'accorder aucun pouvoir à ceux-là même qui possèdent la souveraineté. Du reste, j'attache à ceci peu d'importance. C'est encore une question de mots. La langue n'a point de terme unique pour rendre l'idée de juge et de membre de l'Assemblée publique. J'adopte, afin de préciser cette idée, les mots de magistrature générale, et j'appelle citoyens tous ceux qui en jouissent. Cette définition du citoyen s'applique mieux que tout autre à ceux que l'on qualifie ordinairement de ce nom. Paragraphe 6. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que, dans toute série de choses où les sujets sont spécifiquement dissemblables, il peut se faire que l'un soit premier, l'autre second, et ainsi de suite, et qu'il n'existe pourtant entre eux aucun rapport de communauté dans la nature essentielle des choses, ou bien que ce rapport ne soit qu'indirect. De même, les constitutions se montrent à nous diverses dans leurs espèces, celles-ci au dernier rang, celles-là au premier, puisqu'il faut bien placer les constitutions faussées et corrompues après celles qui ont conservé toute leur pureté. Je dirai plus tard ce que j'entends par constitution corrompue. Dès lors, le citoyen varie nécessairement d'une constitution à l'autre, et le citoyen tel que nous l'avons défini est surtout le citoyen de la démocratie. Paragraphe 7. Ceci ne veut pas dire qu'il ne puisse l'être encore ailleurs, mais il ne l'y est pas nécessairement. Quelques constitutions ne reconnaissent pas de peuple. Au lieu d'assemblée publique, c'est un sénat. Et les fonctions de juge sont attribuées à des corps spéciaux, comme à la Cédémone, où les efforts se partagent toutes les affaires civiles, où les gérontes connaissent les affaires de meurtre et où les autres causes peuvent ressortir encore à différents tribunaux. Et comme à Carthage, où quelques magistratures ont le privilège exclusif de tous les jugements. Paragraphe 8. Notre définition du citoyen doit donc être modifiée en ce sens. Nulle part ailleurs que dans la démocratie, il n'existe de droit commun et illimité d'être membre de l'Assemblée publique et d'être juge. Ce sont au contraire des pouvoirs tout spéciaux. Car on peut étendre à toutes les classes de citoyens, ou limiter à quelques-unes, la faculté de délibérer sur les affaires de l'État et celle de juger. Cette faculté même peut s'appliquer à tous les objets, ou bien être restreinte à quelques-uns. Donc, évidemment, le citoyen, c'est l'individu qui peut avoir à l'Assemblée publique et au tribunal voix délibérante, quel que soit d'ailleurs l'État dont il est membre. Et j'entends positivement par l'État une masse d'hommes de ce genre qui possèdent tout ce qu'il lui faut pour fournir aux nécessités de l'existence. Paragraphe 9. Dans le langage usuel, le citoyen est l'individu né d'un père citoyen et d'une mère citoyenne. Une seule des deux conditions ne suffirait pas. Quelques personnes poussent plus loin l'exigence et demandent deux ou trois ascendants ou même davantage. Mais de cette définition, qu'on croit aussi simple que républicaine, naît une autre difficulté. C'est de savoir si ce troisième ou quatrième ancêtre est citoyen. Aussi, Gorgias de Léontium moitié par embarras, moitié par moquerie, prétendait-il que les citoyens de Laris étaient fabriqués par des ouvriers qui n'avaient que ce métier-là et qui fabriquaient des lariciens comme un potier fabrique un pot. Pour nous, la question serait fort simple. Ils étaient citoyens s'ils jouissaient des droits énoncés dans notre définition. Car être né d'un père citoyen et d'une mère citoyenne est une condition qu'on ne peut raisonnablement exiger des premiers habitants, des fondateurs de la cité. Paragraphe 10. On révoquerait en doute, avec plus de justice, le droit de ceux qui n'ont été faits citoyens que par suite d'une révolution, comme Clisthène en fit tant après l'expulsion des tyrans à Athènes, en introduisant en foule dans les tribus les étrangers et les esclaves domiciliés. Pour cela, la vraie question est de savoir non pas s'ils sont citoyens, mais s'ils le sont justement ou injustement. Il est vrai que, même à cet égard, on pourrait se demander encore si l'on est citoyen quand on l'est injustement. La justice, équivalente ici à une véritable erreur. Mais on peut répondre que nous voyons tous les jours des citoyens injustement promus aux fonctions publiques n'en être pas moins magistrats à nos yeux, bien qu'ils ne le soient pas justement. Le citoyen est pour nous un individu investi d'un certain pouvoir. Il suffit donc de jouir de ce pouvoir pour être citoyen, comme nous l'avons dit. Et même les citoyens faits par Clisthène l'étaient bien positivement. Quant à la question de justice ou d'injustice, elle se rattache à celle que nous avions posée en premier lieu. Tel acte est-il émané de l'État ou n'en est-il pas émané? C'est ce qui peut faire doute dans bien des cas. Ainsi, quand la démocratie succède à l'oligarchie ou à la tyrannie, bien des gens pensent qu'on doit décliner l'accomplissement des traités existants, contractés, disent-ils, non par l'État, mais par le tyran. Il n'est pas besoin de citer tant d'autres raisonnements du même genre, qui se fondent tous sur le principe que le gouvernement n'a été qu'un fait de violence sans aucun rapport à l'utilité générale. Paragraphe 11. Si la démocratie de son côté a contracté des engagements, ces actes sont tout aussi bien actes de l'État que ceux de l'oligarchie et de la tyrannie. Ici, la vraie difficulté consiste à reconnaître dans quel cas on doit soutenir ou que l'État est resté le même ou qu'il n'est pas resté le même, mais qu'il est complètement changé. C'est un examen bien superficiel de la question que de considérer seulement le lieu et les individus. Car il peut arriver que l'État ait son chef-lieu isolé et ses membres disséminés, ceux-ci résidant dans tel endroit et ceux-là dans tel autre. La question ainsi envisagée deviendrait extrêmement simple et les acceptions diverses du mot « cité » suffisent sans peine à la résoudre. Paragraphe 12. Mais à quoi reconnaîtra-t-on l'identité de la cité quand le même lieu reste constamment occupé par des habitants? Ce ne sont certainement pas les murailles qui constitueront cette unité, car il serait possible en effet d'enclore d'un rempart continu le Péloponnèse entier. On a vu des cités avoir des dimensions presque aussi vastes et représenter dans leur circonscription plutôt une nation qu'une ville. Témoin Babylone, prise par l'ennemi depuis 3 jours, qu'un de ses quartiers l'ignorait encore. Du reste, nous trouverons d'ailleurs l'occasion de traiter utilement cette question. L'étendue de la cité est un objet que l'homme politique ne doit pas négliger, de même qu'il doit s'enquérir des avantages d'une seule cité ou de plusieurs dans l'État. Paragraphe 13. Mais admettons que le même lieu reste habité par les mêmes individus. Dès lors, est-il possible, tant que la race des habitants reste la même, de soutenir que l'État est identique, malgré l'alternative continuelle des décès et des naissances, de même qu'on admet l'identité des fleuves et des sources, bien que les ondes s'en renouvellent et s'écoulent perpétuellement? Ou bien, doit-on prétendre que seulement les hommes restent les mêmes, mais que l'État change? L'État, en effet, est une sorte d'association. S'il est une association de citoyens obéissant à une constitution, cette constitution venant à changer et à se modifier dans sa forme, il s'ensuit nécessairement, ce semble, que l'État ne reste pas identique. C'est comme le cœur qui, figurant tour à tour dans la comédie et dans la tragédie, est changé pour nous, bien que souvent il se compose des mêmes acteurs. Paragraphe 14. Cette remarque s'applique également à toute autre association, à tout autre système qu'on déclare changé quand l'espèce de la combinaison vient à l'être. C'est comme l'harmonie où les mêmes sons peuvent donner tantôt le mode d'Orient, tantôt le mode phrygien. Si donc ceci est vrai, c'est à la Constitution surtout qu'il faut regarder pour prononcer sur l'identité de l'État. Il se peut d'ailleurs qu'il reçoive une dénomination différente, les individus qui le composent demeurant les mêmes, ou qu'il garde sa première dénomination malgré le changement radical des individus. Paragraphe 15. C'est d'ailleurs une autre question de savoir s'il convient, après une révolution, de remplir les engagements contractés ou de les rompre.